Fidèle jusqu'à la mort. Chapitre 12. Vers l'Orient. Pendant quelques minutes, après que Richard eut fini sa lecture, on entendit dans la vieille salle qu'un bruit de sanglots. Le père André pleurait comme un enfant, et Dame Laurel se laissait aller sans contrainte à sa douleur. Richard avait eu de la peine à arriver, sans faiblir au bout de sa tâche. Il lui semblait dans chaque mot entendre la voix même de Marjorie, et lorsqu'il était arrivé au passage qui le concernait, son émotion avait été grande. Au bout d'un moment, il releva sa tête qu'il avait cachée dans ses mains. « Noble dame, dit-il, je vous ai promis un jour de ne pas vous quitter sans que vous m'y autorisiez. Je viens aujourd'hui vous demander la permission de partir. Partir ? Pour aller où, mon fils ? N'importe où, pourvu que ce soit bien loin. En Orient, par exemple. Richard, vous y serez assassiné, s'écria le bon vieux chapelain. Tous ces pays là-bas sont infestés de sarrasins et de païens qui ne demandent qu'à tuer les bons chrétiens. En restant ici, je périrai à coup sûr. Il ne peut plus y avoir de tranquillité en Angleterre pour ceux qui lisent la parole de Dieu et je l'ai lu. Si je demeure ici, je ne tarderai pas à être arrêté comme suspect d'hérésie. Sir Carew m'a dit hier que des espions rôdaient dans nos environs et qu'il est certain qu'on le soupçonne d'être un Lollard. S'ils le prennent, ils m'arrêteront aussi. Richard, Richard, s'écria Dame Lovell, vous m'effrayez, mais voulez-vous vraiment partir ? Que deviendrai sans vous, chère et noble maîtresse ? Dit le jeune homme à voix basse, je prie Dieu, et je vous supplie aussi de me pardonner. Je ne suis qu'un misérable lâche. Je ne pourrai pas supporter le feu comme Marjorie. Je dois vous confesser que jour et nuit, je prie Dieu de me l'épargner. Il vaut mieux que je parte avant d'être mise à l'épreuve, car qui sait si j'aurai la force de ne pas renier mon maître. Je vous enverrai de mes nouvelles par des pèlerins, revenant au pays. Et si un roi qui nous permette de vivre en paix, règne un jour sur l'Angleterre, je reviendrai. J'aurais encore plus de chagrin, s'il vous arrivait malheur ici, que je n'en aurais à vous laisser aller, mon fils, dit tristement Dame Lovell. Partez donc puisqu'il le faut. Le jour suivant, un valet au service de Lord Marnell apporta une lettre pour Richard. « Messire Pinson, disait-elle, je viens vous avertir d'user de prudence, car par des messagers venus de Londres, j'apprends que vous êtes suspect et que l'abbé Bilson a votre nom sur ses listes fatales. S'il vous est possible de partir, faites sans tarder. Je vous prie de brûler cette lettre qui pourrait m'attirer beaucoup de désagréments. Je me souviens que Lady Marnell a parlé un jour devant moi de votre désir d'être armé chevalier. Si cela peut vous être agréable, je suis prêt à vous rendre ce service. Faites-moi savoir votre réponse par mon messager, et je pourrai vous rencontrer à l'église de Bostock demain matin de bonne heure. Je repartirai prochainement pour Londres. J'envoie mes humbles respects à Madame ma mère, et ma bénédiction à mon fils. » Marnell Richard lut cette lettre à Dame Lovell, puis la jeta au feu, et fit dire à Lord Marnell qu'il acceptait son offre avec reconnaissance. Le lendemain donc, à l'aube, Lord Marnell et Richard Pinson se retrouvèrent dans la petite église de Bostock, et le grand seigneur conféra la chevalerie au jeune homme en lui frappant l'épaule du plat de son épée, et en lui donnant la collade. Puis ils se séparèrent, et le soir même, Sir Richard Pinson quittait Lovell après avoir fait des adieux émus à Dame Lovell, au père André et au petit Godefroy. Un homme de confiance est sur que Richard s'était embarqué sain et sauf sur un bateau en partance pour La Rochelle, et que le fils de Sir Carew était parti avec lui comme écuyer. Mais par contre il avait appris que Carew avait été arrêté et emmené à Londres sous une bonne escorte. Ce fut le début des terribles persécutions qui devaient durer tant d'années. Astérisque, astérisque, astérisque. 12 mois ont passé, depuis le départ de Sir Pinson, et... Par un après-midi d'été de l'an de grâce 1402, nous retrouvons les habitants du château réunis, dans le grand hall pour le souper. Soudain retentit le son d'un cor, par-delà le fossé des remparts, et l'un des valets alla voir quel visiteur s'annonçait de la sorte. Il revint bientôt en disant, « Un saint homme de pèlerin demande qu'on le reçoive, noble dame, un pèlerin de terre sainte. Amenez-le-moi tout de suite. Peut-être nous apporte-t-il des nouvelles de Richard. » Le pèlerin, vêtu d'une longue robe de bure, et coiffé d'un chapeau à large bord, fit son entrée dans la grande salle. On lui donna la meilleure place à table, et le père André, tout en le servant, l'accabla de questions. Il arrivait de Damas, dit-il, où il avait rencontré un de leurs amis, un certain sire Richard Pinson, qui lui avait remis quelque chose pour la châtelaine. Et, tout en parlant, Il sortit de sa besace un paquet assez volumineux qu'il donna à Dame Lovell. Celle-ci, en l'ouvrant, trouva une lettre, et une de ces merveilleuses étoffes en soie brochée, que l'on ne pouvait alors se procurer qu'à Constantinople. Dans tout le château, le père André était seul à pouvoir déchiffrer l'écriture, et nous savons déjà qu'il n'était pas un clerc bien habile. Toutefois, après avoir retourné la précieuse missive dans tous les sens, il déclara qu'il croyait pouvoir lire le contenu, Richard ayant écrit en gros caractères. Le pèlerin offrit de faire la lecture de la lettre, mais Dame Lovell préféra s'en remettre au père André, car, lui dit-elle lorsqu'ils furent en tête à tête dans sa chambre, on ne peut jamais savoir si une lettre ne contient pas un secret, et les pèlerins, tous ces hommes qu'ils soient, peuvent des bavards. Et avec beaucoup de peine, le vieux chapelain déchiffra ce qui suit. Très noble et excellente, dame, je me recommande humblement à vous, et espère que cette lettre vous trouvera en bonne santé, comme je suis également. Par la grâce de notre Seigneur, je suis bien arrivé à Damas, qui est une ville belle et riche, remplie de marchandises de toutes sortes. J'ai passé par Byzance, et y ai vu toute sainte relique, la croix de notre Seigneur, sa robe, le roseau, et l'éponge au moyen desquels on lui donna à boire, et beaucoup d'autres reliques dont je n'ai pas le temps de vous écrire, et dont parle Sire Jean Mandeville dans ses voyages. Cette ville de Damas est très grande, et je n'ai jamais vu de jardin aussi beau qu'ici. En outre, Saint Paul y a demeuré. Je vous fais savoir, noble dame, que, d'ici, avec l'aide du Seigneur, je compte aller à la sainte ville de Jérusalem, qui est à 5 journées de chemin. Je vous envoie une pièce de soie, la plus belle que j'ai trouvée sur le marché de Byzance, pour vous en faire une robe pour les jours de fête. Edmond Carève est en bonne santé. Il est un loyal écuyer et un plaisant compagnon. Mais il est bien en peine d'avoir des nouvelles de son père, et je crains qu'il ne soit arrivé malheur à mon vieil ami. Si vous connaissez quelqu'un qui parte pour la Terre Sainte, envoyez-nous des nouvelles. Je voudrais savoir aussi quelque chose sur Lord Marnell. Et Godefroy, est-il encore auprès de vous? Se souvient-il encore de moi? S'il ne m'a pas oublié, je lui rapporterai un jour quelque chose de beau. Que la bénédiction de Dieu repose sur le cher enfant, et qu'il le garde du tout mal. Saluez Sir Ralph Marston de ma part, et Lord Marnell, et tous les serviteurs. J'ai rencontré ce bon pèlerin dans une église appelée Notre-Dame de Sardenal, située à 5 000 de Damas. Il m'a promis de remettre fidèlement mes lettres à vous, et à mon père. Vous saurez, noble dame, qu'il y a en ce pays-ci des hommes qui se nomment Jacobites. Ils sont de vrais lolards, tenant pour juste que l'on se confesse à Dieu, et non à un prêtre. Ils lisent la parole de Dieu dans leur propre langue, et non pas en latin. Je suis grandement étonné de les trouver dans ce pays, et ne sais comment ils y sont venus, car ils ne savent rien de nous, et de notre pays d'Angleterre. En vérité, je crois que Dieu enseigne lui-même les siens en tout pays, et dans tous les temps. Et je vous prie en particulier, très chère dame, de me dire si je peux rentrer chez moi. Le roi Henri règne-t-il encore? Et est-il toujours mal disposé envers les Lollards? Car tant que rien n'aura changé, je ne pourrai revenir. Et maintenant, je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte garde, à laquelle je vous remets tous. De votre très humble et obéissant serviteur et ami. Richard Pinson écrit à Damas le 22e jour de novembre. Telle fut la première et dernière lettre que Dame Lovell reçut de Richard Pinson. Il écrivit sans doute plusieurs autres, mais elles ne parvinrent jamais à destination. Le père André écrivit quelques lignes en réponse, mais non sans peine. Il travailla toute une semaine à composer sa lettre, et à la transcrire sur du papier. Elle était écrite en petites phrases courtes et gauches, comme celles d'un enfant, mais contenait pourtant tout ce que Richard Pinson désirait savoir. Le bon père l'informait que tout allait bien au château, que le petit Godefroy assurait qu'il n'oublierait jamais son grand ami, et que la rumeur publique disait que Lord Marnell avait pris part à une insurrection, mais qu'il ne pouvait le croire. Sir Carève avait été emmené à Londres, et interrogé par le conseil du roi, mais ses réponses avaient été si adroites, qu'on n'avait pas pu le mettre en accusation, et on n'avait rien trouvé de compromettant chez lui, de sorte qu'il avait été relâché. Le vieux chapelain terminait sa lettre en maudissant les mauvaises gens, voulant désigner par là le parti fanatique de l'Église, car bien qu'il fût fort indifférent en matière religieuse, il ne pouvait pardonner la mort de Marjorie. Il suppliait aussi Pinson de ne rien avoir à faire avec les païens et les sarrasins, et de revenir le plus vite possible, mais pas encore pour le moment. Puis il plia soigneusement la lettre, si laborieusement composée, et l'adressa de la façon suivante, à remettre aux mains du très noble chevalier, Sir Richard Pinson de Pinsonlay, en Terre Sainte, À Damas ou quelque lieu.